Bon, raté Véro, il est pas 12h12.
Non, mais il est midi 10.
Et on n'est pas à l'apéro.
Non, on est juste pour la midinale.
En direct, sur Radio Bartas.
Sur le 107.
C'est parti. Pour ceux qui préfèrent la ZIC, rebranchez-vous à 13h. Parce que de 12h10 jusqu'à 13h, c'est les midinales en direct sur Radio Bartas. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, c'est l'heure de la midinale et je suis en compagnie de Léa Farizen, bonjour.
Bonjour Ben.
Bonjour, on va le dire, tu t'appelles Raphaël en vrai, mais c'est un joli pseudo quand même.
On a le droit.
Il est tout beau, il est tout neuf, je l'ai là, ton nouveau livre vient de sortir, La Marche du Levant, publié chez Albin Michel. On en parle dans un instant, il y aura aussi ton interview détente, bien sûr. Nous rejoindra en deuxième partie d'émission par téléphone, il joue ce soir à Hurle la Parade avec son groupe Luc L. Duke, j'espère que je le dis bien, ce sera Lucas. Et évidemment, dernière partie d'émission, Véro me rejoindra pour les annonces. C'est la midinale et on parle fantasy sur Radio Bartas, c'est parti. Léa Farizen, merci d'être là. Alors, c'est un joli, joli pavé de 650 pages, plus ou moins. La Marche du Levant, ça vient de sortir chez Albin Michel. Je dis roman, fantasy, je me trompe pas?
Alors, il y a déjà une polémique sur le sujet. Est-ce que c'est de la fantasy? Est-ce que c'est de la science-fiction? Peut-être un petit peu les deux. À lire pour le découvrir.
C'est vrai, ça. On va en parler, d'ailleurs. Alors, précisons aussi que tu es du coin.
Tout à fait.
Ouais, tu nous viens d'où, alors?
Eh ben, mes grands-parents sont du pont de Montvert, donc depuis que je suis né, j'ai beaucoup fréquenté le Mont-Lozère et les Cévennes.
Alors, c'est vers 35 ans que tu as choisi de réellement changer de vie. Hein. T'es parti au Chili et là-bas, le volcan Calbuco, c'est ça?
Correct.
Entre en éruption et hop, déclic.
Eh ben voilà, ça s'est un petit peu passé comme ça, effectivement. Il faut croire que ça remet pas mal de choses en moi, puisque dans le mois qui a suivi, je suis arrivé en Cévennes et j'ai décidé comme ça que j'allais écrire. C'était vraiment impérieux.
Alors ouais, on en parlera aussi tout à l'heure. Hein. La Marche du Levant, c'est pas ton coup d'essai. T'en as quelques-uns quand même, dont des recueils de poésie. D'où t'es venue l'idée de La Marche du Levant? Comment ça a commencé cette aventure?
Ben, je me souviens très bien le soir où le topos, l'idée principale a germé. J'étais avec une amie au pont de Montvert justement et c'était pleine lune. On regardait par le Velux la pleine lune en disant c'est quand même marrant qu'elle nous montre toujours la même face, toujours la même bouille. Donc on discutait des raisons techniques, astronomiques qui font que c'est comme ça. Et alors il y a toute une explication scientifique derrière ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis on s'est dit tiens, ça serait marrant d'imaginer un roman où la Terre est comme la Lune où c'est presque arrêté de tourner, où tourne tellement doucement que finalement le jour dure plus longtemps que plusieurs années et monte toujours la même face au soleil ou presque, et donc ça voudrait dire qu'il faudrait dans ces cas-là échapper au jour de feu et à la nuit de glace, qu'il faudrait survivre à l'aurore ou au couchant. Donc le contexte, le tropisme était là, et puis derrière, après, d'autres idées se sont greffées.
Le plus dur, c'est quoi? C'est d'avoir l'idée ou de construire, entre guillemets, le roman?
Ah, le plus dur, c'est de l'écrire quand même, hein. Faut pas se leurrer. Non, parce que des super idées, tout le monde en a, hein. Tout le monde est génial. Hein. Non, des bonnes idées, tout le monde en a. Après, ce qui est difficile, c'est de les mener à terme. Ouais.
Et là, tu y es arrivé. Alors justement, comment tu travailles? T'écris tous les jours ou bien c'est plus sur des longues périodes? Comment tu bosses?
Je dirais que il y a à peu près 4-5 mois de l'année où j'écris beaucoup, et puis le reste de l'année où je vais travailler à réécrire ce que j'ai fait, à améliorer. Mais les phases créatives en général sont assez intenses et assez compactes. Ouais.
Celeria, je le dis bien.
Celeria, ouais, comme la vitesse. Ouais.
C'est l'héroïne et elle est assassine émérite, c'est ça?
Oui, alors c'est l'héroïne effectivement du début de l'œuvre. Après, il y a des basculements, d'autres personnages prennent un peu plus le devant de la scène. Effectivement, au début de l'œuvre, sa formation, elle a été recueillie par un maître assassin et elle a été élevée depuis toute petite dans le crime et la rapine, en fait. Hein.
Et à son tour, elle va prendre un apprenti aussi, quoi.
Alors effectivement, assez tôt dans l'œuvre, elle se choisit un jeune apprenti, un petit enfant qu'elle retrouve sur le marché qui est assez fantasque, qui va évoluer avec elle au fur et à mesure de l'œuvre.
Comment tu fais pour les noms des personnages, justement? C'est vrai que, bon, alors, tout à fait entre nous, j'ai écrit des bouquins, et trouver des noms, mais à chaque fois, c'est un sacerdoce, je trouve. Est-ce que pour toi, c'est plutôt simple?
Ouais, je sais pas si les noms sont réussis, chaque lecteur en jugera, mais il me semble que j'aime bien inventer des noms, ouais, j'aime bien inventer des sonorités, des noms, donc ça me vient assez naturellement. Parfois, bon, les premières tentatives ne sont pas géniales, et puis en y repensant... J'en trouve un autre, et puis enfin, chercher remplacer, ça c'est bien avec le traitement texte moderne, on peut renommer très vite un personnage.
T'as des premiers lecteurs, lectrices, à qui tu donnes les premiers jets, entre guillemets?
Oui, bien sûr, ouais, c'est important. J'ai un petit comité de lecture, une petite garde rapprochée d'amis... d'à peu près 6-7 personnes, donc soit c'est des amis de longue date, donc je sais qu'ils sont des grands lecteurs et qu'ils sont assez sincères aussi pour me dire ce qui va et ce qui va pas, parce que c'est important d'écouter aussi ce qui va pas et de l'accepter. Il y a une personne dans mon comité de lecture qui s'appelle Jeanne, que je n'ai jamais rencontrée, mais qui est devenue une amie épistolaire. On s'est fait connaissance à travers des revues de poésie où on a publié ensemble dans les mêmes revues depuis 4 ou 5 ans. Et puis voilà, on s'écrit tous les mois, on s'échange nos bouquins quand on les écrit, on se les fait lire, voilà. Mais c'est les regards qui comptent, ouais.
Et comment ça s'est passé avec les éditions Albin Michel? Parce que c'est quand même une super belle maison d'édition, quand même.
Ouais. Ben, ça s'est passé de façon rapide et inattendue. Moi, j'écrivais sans trop me préoccuper du succès ou d'être édité chez un grand éditeur. J'avais même prévu, d'ailleurs, quand j'ai terminé ce roman, de l'éditer à ma façon, comme je faisais avec les titres précédents. Auto-édition, impression, et puis sur les marchés, ici, à Sainte-Croix, à Florac, dans le coin, un peu sur Internet. Je l'ai quand même envoyé à une 10 ou 12 maisons avant au printemps 2019, en disant « bon, c'est jamais quand même ». Et Gilles Dumais, donc, qui dirige la collection Albin Michel Imaginaire, m'a répondu très très vite, ce qui est très étonnant chez un éditeur, hein, parce qu'en général les réponses tardent très longtemps et en général elles sont négatives. Donc là c'était tout l'inverse, c'était des réponses très rapides et ça avait l'air de l'intéresser, mon truc. Il avait eu que le... premier chant, hein, puisque ce livre est décomposé en trois chants. Il n'avait eu que le premier, mais il me dit « envoyez-moi la suite quand même pour voir là ». Mais il me dit « bon, je ne l'aurai pas avant 2 mois parce que j'ai beaucoup de boulot ». Et puis en fait, il a dévoré ça, il m'a répondu très très vite, il était extrêmement enthousiaste, donc voilà. Ce qui prouve que les éditeurs lisent les manuscrits, contrairement à la légende.
C'est clair. Si on parle du design Hervé Leblanc, qui a fait le design de la couverture, c'est super bien fait, c'est dessiné. C'est quoi la rencontre un peu et l'histoire?
Alors, quand Gilles m'a proposé un peu différents illustrateurs avec qui il était déjà habitué à travailler... bon, il y en avait qui me plaisaient plus ou moins, mais c'était pas exactement ce que je voulais. J'avais dans l'idée en tête de quelque chose d'assez précis. En tête, je voulais quelqu'un qui fasse un peu comme une peinture, comme un tableau de la Renaissance. Je voyais, parce que il y a quelque chose d'assez classique dans cette œuvre, à la fois dans le style et puis dans les stéréotypes du conte de fées, tout ça. Et donc, je voyais bien quelque chose qui ressemble à un joli tableau de la Renaissance où l'œil pouvait se perdre. Et il m'a dit je vois ce que tu me dis, mais t'as déjà été voir le travail de Hervé Leblanc? Et donc là je suis allé voir, je dis c'est exactement ça qu'il nous faut. Il me dit oui, mais là ça va pas être facile de l'avoir celui-là. Il me dit attends, je me renseigne quand même. et voilà, on a réussi à avoir un petit créneau de sa part.
Ouais, en tout cas ça donne vraiment envie de se plonger dans le livre, tu vois, c'est vraiment bien fait. C'est quoi tes influences littéraires? Parce que on le disait tout à l'heure, c'est pas ton coup d'essai, hein. T'as plusieurs recueils de poésie, j'ai vu, et aussi d'autres romans. C'est quoi un peu, d'où ça vient, justement, tes influences?
Alors, si on remonte loin dans le temps, ce qui m'a vraiment amené à la littérature, le premier vraiment grand coup de poing, c'est la grande rencontre, c'est Tolkien, en fait. À 10 ans, je tombe dans la bibliothèque de mes parents un soir sur le Bilbo le Hobbit, petit conte de fées assez sympatoche. Je me dis quand même, c'est pas mal, l'histoire d'elfes, tout, avec des orques, des monstres, des pouvoirs magiques. Bon, enfin, on aime ça quand on est gamin. Et puis quelqu'un me dit, ah ouais, t'es en train de lire ça? Il me dit, bah, après, il y a Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu plus difficile, ça fait 1800 pages, mais enfin, c'est un peu la suite, tout ça. Ok, on voit. Et donc, à 10 ans, je me suis accroché à ce truc-là qui est quand même
un pavé, hein.
Sacré pavé pour l'occasion. Hein. Et je pouvais pas le lâcher, pourtant c'est pas une œuvre facile. Hein. Et de là, ben voilà, la culture un peu des jeux de rôle avec les copains, les livres dont vous êtes le héros, c'est un truc qui est un peu passé de mode, mais quand on était gamin dans les années 80, c'est des bouquins dont on raffolait, pour ceux qui s'en souviennent.
On jouait avec des dés, des crayons, c'était génial.
Voilà, optionnellement, mais enfin surtout on lisait un livre en choisissant un peu si on allait à droite ou à gauche, et il y avait quelque chose de très addictif là-dedans, et qui a bien contribué à me faire aimer le milieu. Donc jusqu'à 20 ans, c'était plutôt effectivement des lectures un peu comme ça, fantastiques, du Lovecraft, avec l'histoire de monstres, de démons, Dune, Hyperion, Dan Simmons, ces gros classiques. Après, pendant un temps, j'ai plutôt lu beaucoup de classiques. J'avais un peu laissé tomber la littérature imaginaire parce que je trouvais que c'était un petit peu décevant au niveau style, souvent. Je devenais un peu plus fine bouche, donc j'ai lu beaucoup de classiques. Mes claques, ensuite, ça a été plutôt Saint-Exupéry, Camus, Joseph Kessel, Romain Gary, que j'adore. Voilà, un petit peu sur la littérature. Et puis, récemment, je me suis dit, tiens, il faut renouer avec les rêves d'enfance un peu. Et pourquoi pas écrire du fantastique et de la fantasy, alors que j'avais commencé par des choses plus sérieuses, entre guillemets, de la poésie, de la métaphysique. Et voilà, je suis parti là-dedans.
Et justement, est-ce que tu écoutes de la musique en écrivant? Est-ce que, ou alors est-ce que tu as besoin de calme total?
Calme total.
tu te mets à ton bureau et c'est parti.
Je n'aime pas trop la position bureau, ça me fait mal au dos très très vite, donc je préfère la position canapé en fait, ouais, l'ordi sur les genoux. Ouais.
Est-ce qu'on peut te trouver dans les librairies floracoises?
Oui, ben, il est déjà d'ailleurs chez Roland à la presse de Florac, peut-être chez Richard aussi, je ne l'ai pas vu depuis un petit moment, qui est à l'autre librairie. De toute façon, c'est un livre qui est très bien distribué, qui va être très facile à trouver. Et même si votre libraire ne l'a pas en stock le moment où vous venez le voir, il suffit de lui demander de vous le commander et il arrive très très vite.
Au pire, il y a des liens sur Internet et je les mettrai sur le site.
Voilà. Bah enfin, c'est toujours mieux d'aller, c'est toujours mieux d'aller chez votre libraire du coin. Si vous ne voulez pas qu'il mette la clé sous la porte, avant de commander sur Amazon, réfléchissez quand même à la survie de votre libraire du coin.
C'est important de le dire. Ouais. Tu as d'autres projets en préparation ?
Ouais, bien sûr. Ouais. Là, je suis en train de peaufiner un livre qui sortira l'année prochaine, à peu près en novembre, même pas à peu près, complètement, en novembre 2021. Donc là, on est plutôt sur le registre du space opéra, de la science-fiction très lointaine, avec des vaisseaux, différentes planètes à visiter, de la technologie, enfin voilà, de la SF pure et dure. Et j'ai déjà à peu près en tête ce que je voudrais faire comme quatrième roman. Ça mettra probablement plus d'un an à le réaliser, celui-là, parce que c'est une idée assez particulière et qui va demander pas mal de travail. Voilà.
Et est-ce que, justement, est-ce que c'est un rêve de le voir matérialiser sur l'écran, en dessin animé ou en film?
Ben, j'y avais pas du tout pensé au début. J'écrivais parce que j'aimais écrire et puis pour moi le livre c'était le livre. Mais c'est vrai que de travailler avec une grande maison comme Albin Michel qui a commencé à me parler effectivement des possibles dérivés d'une histoire et de voir aussi Hervé Leblanc qui est entre autres a fait beaucoup de décors pour des dessins animés et qui fait aussi de la bande dessinée. De voir la première image qu'Hervé Leblanc a pu en sortir avec sa patte et son imaginaire, je me suis dit, tiens, mais c'est chouette, c'est vrai, de voir ça mis en image. Et je me suis dit, oui, ça serait bien de le voir un jour en BD, pourquoi pas en film. Bien sûr, ça sera une autre œuvre, ça sera quelque chose d'autre. Hein, mais alors voilà, pour l'instant, la seule chose qui est prévue, c'est en octobre, on va sortir une version livre audio. Mais je l'écouterai aussi parce que ça peut être intéressant d'entendre... l'œuvre lue par des artistes, par des comédiens.
Et si on pourrait le diffuser à la radio?
Alors ça, il faudra voir avec la boîte qui fait ça ou avec mon éditeur. Je ne connais pas du tout ce genre de subtilité. J'imagine qu'ils ont leur... sûrement des extraits, c'est certain. Je pense qu'ils seront ravis de me proposer des extraits. Après, pour avoir l'intégralité du feuilleton, je crois que ça va faire à peu près 30 heures d'enregistrement, d'après ce que j'ai compris. Je te donnerai les contacts de mon éditeur, il te dira comment faire.
Avec grand grand plaisir. Le temps passe vite, est-ce que tu es prêt pour l'interview détente?
Ok.
Allez, on y va. C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Et non, pas le droit de dire feel good. Un livre, alors justement, moi je conseille La Marche du Levant évidemment, mais un livre que tu conseillerais aux auditeurs et aux auditrices?
Eh bien, écoute, la lecture qui m'a le plus ému et remué cette année, c'est un livre qui s'appelle Le cœur cousu. Une jeune autrice, je ne sais pas si elle est jeune ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas c'est son premier roman, elle s'appelle Martinez. Le cœur cousu, c'est un livre qui est assez connu, hein, je ne sors pas quelque chose d'absolument scoop énorme, il est déjà un livre de poche, je crois que c'est un livre qui est sorti il y a quelques années, qui a déjà eu un certain succès. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé que c'était extrêmement poétique, extrêmement subtil. C'est une histoire de transmission sur plusieurs générations. C'est un livre assez féminin, sur la transmission de génération de femmes en génération de femmes dans une Espagne, on ne sait pas très bien quelle époque, mais on peut imaginer peut-être 19e siècle. Il y a un petit côté Garcia Marquez en temps de solitude, et tout est beau du début à la fin. C'est un festival au niveau littéraire. J'ai trouvé ce bouquin magnifique.
Cœur cousu.
Le cœur cousu.
Un film que tu conseillerais?
Ah. Bah écoutez, je ne l'ai pas vu, mais j'ai envie de dire, il y a quand même le Dune de Denis Villeneuve qui sort bientôt, ça donne très envie quand même. Ça donne très envie, Dune c'est une très belle œuvre littéraire, Denis Villeneuve, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, ça sent quand même le bon film, on va voir.
Dune, ouais, j'ai hâte aussi. Ouais. Et un artiste ou une chanson?
Alors là tu me prends au dépourvu, j'avais pas réfléchi. Bah écoutez, Bachung fait quand même partie de mes auteurs favoris, et on va dire une petite chanson de Bachung, allez, La nuit je mens peut-être.
Magnifique. Merci Niafar.
Merci à toi Ben.
La marche du Levant, ça vient de sortir aux éditions Albin Michel dans la collection Imaginaire. En tout cas, félicitations et bonne continuation à toi, à bientôt.
Merci beaucoup.
Par téléphone, Lucas nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Tu es musicien et tu joues ce soir à la pizzeria au garage à Hurlaparade avec ton groupe Luc El Duke. Je le dis bien ?
C'est ça, c'est Luc El Duke.
Comment ça a commencé l'aventure ?
Bah, l'aventure, ça a commencé. Je suis musicien depuis pas mal de temps maintenant, depuis que je suis tout petit. Je joue avec mon frère, mais le groupe Luc El Duke, ça a commencé il y a 2 ans parce que j'ai voulu monter mon projet pour pouvoir tourner un peu partout dans les bars, pouvoir faire ma musique et pas dépendre d'autres musiciens, parce que c'est vrai que l'organisation est assez compliquée quand on doit partir en tournée, etc. Là, je me suis dit, vas-y, tu montes ton petit projet, comme ça c'est détente, tu peux préparer tes affaires tout seul, t'as pas à partir avec les autres, etc. Pouvoir être un peu libre dans la musique, c'est ce qui m'intéressait, même si j'ai d'autres groupes à côté, ça m'intéressait d'être vraiment tout seul.
Et petit, tu voulais devenir cow-boy et ça a d'ailleurs influencé ta musique.
Tout à fait, ouais, j'ai fait mes études là-dedans, j'ai bossé un peu au Texas, dans les ranches, tout ça, donc ça m'a permis de rencontrer des gens, des influences un peu de caractère country, et du coup, après, ça m'a aussi inspiré pas mal de chansons, pas mal de vécu un peu, cowboy country, quoi.
Alors, tu parlais de country, mais je suppose que c'est pas tes seules influences musicales, c'est quoi tes influences ?
Alors, pour ce qui est de l'acoustique pour Luc El Duke, il y a de la folk, mais il y a même quelques trucs français. En fait, les influences, c'est la musique qui me fait vibrer, donc ça peut être du téléphone, comme du Neil Young. Après, c'est des choses qui, voilà, c'est des chansons qui me font ressentir quelque chose, même si ça paraît un peu logique. Et après, sinon, pour les autres groupes que j'ai, c'est plus une influence hard rock avec les Guns, Led Zepp, tous les groupes un peu classique rock de l'époque, quoi.
Et Luc El Duke, tu l'as vite fait mentionner tout à l'heure, mais tu joues avec quelqu'un que tu connais très très bien.
Ouais, tout à fait. Moi, j'en ai parlé, c'est mon frère, et du coup on joue ensemble que depuis cette année, donc pour la saison Covid-19 si je peux me permettre, et du coup ça se passe super bien. Et en fait, je lui ai proposé la première date, je lui ai dit écoute, j'aimerais bien qu'on monte le duo, on avait fait quelques tests pour des potes et c'est vrai que ça sonnait beaucoup mieux, ça changeait tout en fait, qu'il soit à la guitare à côté de moi, au niveau des solos il fait des arrangements et tout. Et du coup, je lui ai proposé la première date, on n'a même pas répété, on y est allé, et ça s'est super bien passé. Du coup, on a fait toute la saison ensemble. Ça n'a fait que nous rapprocher encore plus, quoi. Donc, je suis vraiment ravi, ça me fait beaucoup de bien de jouer avec lui.
Belle aventure, effectivement. À quoi doit-on s'attendre quand on va voir ton groupe en concert?
On essaye de, ça dépend où on joue. Si c'est dans un restaurant, on essaye de s'adapter un peu aux envies du public. C'est-à-dire que quand ils mangent, ben, je comprends qu'ils n'aient pas envie qu'il y ait quelqu'un qui braille dans leurs oreilles pendant qu'ils sont en train de discuter et savourer leur plat. Et du coup, on fait un truc un peu smooth lounge, si je peux me permettre, avec des chansons acoustiques un peu calmes. Et pendant l'apéro, donc avant et après, on se permet d'accélérer un peu avec des classiques un peu plus connus. Comme ça, si les gens veulent chanter, c'est possible. Bon, auparavant, s'ils voulaient danser, c'était possible. Après, là, je crois que avec ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Mais du coup, voilà, on peut s'attendre à deux énergumènes vers la fin du spectacle qui dansent un peu avec leur gratte et qui braillent des chansons connues pour que tout le monde chante avec eux. Quoi.
Et ben justement, c'est quoi ton regard sur ce qu'on appelle l'exception culturelle française et sur la culture en général en ce moment, en ces moments, comme tu disais, un peu difficiles?
Ouais, c'est... Après, bon, je suis pas trop... J'essaye de pas trop m'engager politiquement, surtout avec ma musique. Mais c'est vrai que... Après, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai réussi à travailler cet été. Mais c'est vrai qu'actuellement, on n'est pas les mieux lotis quoi, dans la culture. Après, personne. Hein. Moi, je rencontre des gens dans les restos, justement, tous les patrons. Enfin, tout le monde tire la langue, clairement. Après, si pour moi, il y a urgence sanitaire. Donc, on est là pour tous se soutenir et faire attention les uns aux autres. Donc, effectivement, la culture est un peu mise à bas. Mais généralement, ça crée quelque chose de bon. Ça nous donnera des choses à raconter dans nos chansons.
Toi, t'es intermittent ?
J'essaye de le devenir cette année, justement. Alors, c'est arrivé en février, j'ai pris la décision, donc je me suis inscrit dans un groupe de bal pour faire les tournées dans les villages du Sud. Et le Covid est arrivé juste après. Donc, ça a fait tomber tous mes plans à l'eau, sauf Lucas Duke, avec lequel j'ai réussi à tourner un peu cet été. Voilà.
Et on a vu une nouvelle manière de consommer la culture pendant le confinement. C'est positif ou négatif, selon toi?
Moi, je trouve ça super positif. Le côté réseaux sociaux, le côté comment dire, Spotify, je trouve ça positif, même si c'est un peu controversé par rapport aux paiements pour les artistes, tout ça, toutes les controverses qui existent. Mais je trouve ça bien parce que on n'est plus dépendant des majors, comme on pourrait les appeler. On n'est plus dépendant de tous ces gros labels qui finalement assassiner un peu les artistes à l'époque et sélectionner vraiment sélectionner les meilleurs des meilleurs, alors que là tout le monde maintenant peut s'exprimer, il y a la musique et surtout tout le monde peut les entendre, et je trouve ça super important qu'il y ait cet échange qui soit vraiment accentué par les réseaux sociaux et internet.
Luke El Diouk, c'est ce soir la pizzeria au garage à Hurla Parade, c'est gratuit et c'est à 21h, les réseaux sont au 06 68 57 89 51. Merci beaucoup Lucas.
Eh ben merci beaucoup à vous, c'est vraiment adorable de votre part de m'avoir donné cette opportunité de faire un interview. Donc, merci beaucoup.
Bonne route à toi Cowboy, et on écoute tout de suite Moonshine's Music and Beer. Véro me rejoint dans un instant pour les annonces. À bientôt Lucas et bon concert. Ciao.
I'm just born about the song about the trucks, dogs, and what's going wrong. It ain't easy for country boy to find the right thing that you all gonna enjoy. Got one, but I'm still insane. Can the bond, join the band, going back home, forget it to be the I know I come here. It's not the bad, the bill at the end of the year. God, let me see a couple of rhymes about better bit that hit in my time. We all need the band to keep on ruling. The strong face of God, great to keep us standing. I could find myself into a better living. The life's tough enough for the weak I am. Some choose to be in heaven serving, but I'm a proven sinner who have no chances. And I surprise as diligence or fear if I stay with my munching you the can deal. Have you understand the simple rhythm that made me capsize with the simple guardian? The show might be the bad to end,
face like a strong and clever man. The alcohol, the wrath in my veins, will keep the wind of size and break the donkey's chain. I try to write a different song. Let's see, I'm alive to serve him by reputation. God, I'll sing you a couple rhyme about it, but I bet that it ain't my time. We all need some sin to keep on ruling. A strong face of God, a grave that keep us standing. I could find myself into a better living. The life's tough enough for the weak I am. Some choose to be in heaven serving, but I'm a broken sinner with no chances. And that surprises diligence or fear. If I stay with my, I'm watching you, they can. We all need something to keep on ruling. A strong face of God, great that keep us standing. I could find myself into a better living. The life's tough enough for the weak I am. Some choose to be in heaven serving, but I'm a proven sinner with no chances. Not surprises, diligence, or fear. If I stay.